Petites histoires des sciences. Le phénomène de la diffraction. Découverte vers le milieu du XVIIe siècle, la diffraction de la lumière est longtemps restée un phénomène mystérieux. Elle s'observe lorsqu'un faisceau lumineux rencontre un obstacle ou une ouverture de très petite dimension et est caractérisée par une déviation des rayons lumineux par rapport à la direction prévue par l'optique géométrique. Dans la vie courante, on peut la mettre en évidence en regardant une source lumineuse ponctuelle éloignée à travers un voilage fin, regarder un lampadaire ou un projecteur à travers un tissu par exemple. En 1818, le français Augustin Fresnel en donne pour la première fois une théorie quantitative satisfaisante. Retour sur la découverte de ce phénomène resté longtemps mystérieux. C'est le père Francesco Grimaldi qui, vers 1650, entreprend le premier une étude détaillée et systématique du phénomène de diffraction. Il rassemble ses résultats dans un ouvrage volumineux de 472 pages, publié en 1665 à titre posthume. Grimaldi réalise deux séries d'expériences. Dans la première, il fait pénétrer la lumière du soleil dans une très petite ouverture, puis observe sur un écran blanc l'ombre d'un petit objet, tel un cheveu, placé sur le cône de lumière divergente. Au lieu d'observer une séparation franche entre ombre et lumière, il observe une frontière non définie où de chaque côté de l'ombre apparaît une série de trois franges lumineuses, irisées de bleu vers l'intérieur et de rouge vers l'extérieur. Ces franges suivent précisément le contour de la zone d'ombre et leur intensité diminue à mesure que leur distance à celle-ci augmente. Dans d'autres conditions expérimentales, fil de fer d'environ 1 mm de diamètre par exemple, il observe même des franges lumineuses à l'intérieur de l'ombre géométrique. Dans la seconde série d'expériences, il place dans le cône de lumière un écran opaque comportant une petite ouverture et examine la lumière projetée sur un écran éloigné. Il constate que la taille de la tache lumineuse sur l'écran est plus grande que celle qui résulterait d'une simple propagation rectiligne de la lumière. Afin de déterminer l'origine du phénomène, il modifie de nombreux paramètres de l'expérience. En faisant varier la distance de l'obstacle à l'écran, il vérifie que ces franges lumineuses ne sont, je cite, « ni sur une ligne droite passant par la source et tangente à l'obstacle, ni sur une droite menée du trou au point de l'écran sur lequel on les observe ». D'autre part, ces franges lumineuses restent invariables. Je cite, « quel que soit le corps opaque placé dans le cône lumineux, dense ou léger, lisse et poli, rugueux et irrégulier, dur ou mou. » Grimaldi se trouve manifestement en présence d'un phénomène nouveau qui n'est ni de la réfraction, ni de la réflexion. Il lui donne le nom de diffraction. L'œuvre de Grimaldi est connue des savants du XVIIe siècle comme Robert Hooke, Isaac Newton et Christian Huygens. Newton reproduit et complète ses expériences. Il les interprète, suivant sa théorie corpusculaire de la lumière, comme un phénomène de réfraction particulier. Il imagine qu'au voisinage des bords de l'écran, la trajectoire des corpuscules de lumière est infléchie sous l'action de forces attractives ou répulsives. C'est dans les années 1690 que Newton se consacre à l'étude de la diffraction. On y voit là l'influence des Principia et de sa théorie de l'attraction gravitationnelle. Mais cette interprétation n'est pas vraiment convaincante. La partie de son ouvrage Optics de Newton consacrée à la diffraction n'est pas à la hauteur de ses travaux sur la décomposition de la lumière par un prisme. Influencé sans doute par sa conception corpusculaire de la lumière, Newton ne semble pas avoir observé de telles franges. C'est ce que semblait penser Augustin Fresnel au XIXe siècle, je cite, « On serait tenté de croire que ces préventions ont pu contribuer à lui fermer les yeux sur ces phénomènes importants. » À la même époque, Christian Huygens est un des partisans les plus farouches de la théorie ondulatoire de la lumière. À l'aide de sa théorie des ondelettes secondaires, il retrouve les lois de la réfraction et de la réflexion. Il explique également partiellement la biréfringence du space, on en parlera dans une autre série d'articles, mais il ne semble pas s'intéresser à la diffraction. À vrai dire, un traitement quantitatif de la diffraction requiert la sommation d'un nombre infini d'ondelettes. Or, le calcul intégral était tout juste en train d'être inventé par Newton et Leibniz. Huygens n'aurait donc pas disposé des outils mathématiques nécessaires à la résolution du problème. Augustin Fresnel naît le 10 mai 1788 à Broglie, dans l'Eure. À 13 ans, il entre à l'école centrale de Caen, créée en 1795. Il y bénéficie d'une liberté d'apprentissage assez grande qui lui permet de satisfaire sa curiosité naturelle. Fresnel présente de réelles dispositions pour le dessin et les mathématiques. En 1804, il est reçu 17e à l'école polytechnique et retrouve son frère Louis, admis l'année précédente. À Polytechnique, Fresnel a comme professeur des savants illustres comme Monge, Poisson, Fourier, Fourcroix ou Legendre. Il y fait la connaissance d'Arago, qui deviendra plus tard son protecteur. En 1806, Fresnel entre à l'école des Ponts et Chaussées. Comme de nos jours, les élèves devaient choisir une école d'application à la sortie de l'école polytechnique. Il est ensuite affecté en Vendée, puis en 1813 dans la Drôme à Nyon, comme ingénieur des ponts et chaussées. S'il s'acquitte de sa tâche avec une grande conscience professionnelle, cette activité essentiellement pratique ne le satisfait pas. Il se penche pendant ses heures de loisirs sur des problèmes de science pure, comme la théorie de la lumière. Souvent, dans ses cahiers de travail, à côté de la note de paye des ouvriers, apparaissent des schémas et des études sur la lumière et sur les questions analogues. En décembre 1814, il s'intéresse à la polarisation de la lumière. Sa culture en ce domaine est très sommaire, et dans une lettre, il demande de la documentation sur le sujet à son frère Léonore. Cependant, fin février 1815, le retour de l'île d'Elbe de l'empereur Napoléon va faire basculer sa vie. Fervent défenseur des Bourbons, et opposant déclaré au retour de l'empereur, peut-être parce que son frère Louis s'est fait tuer en Espagne en 1809, Fresnel propose ses services auprès de l'armée royale du Midi. Mais le retour au pouvoir de Napoléon entraîne la destitution de Fresnel, qui est assigné à résidence auprès de sa mère à Mathieu dans le Calvados. Lui, qui se plaignait de manquer de temps libre, va avoir devant lui plusieurs mois pour tester ses idées sur la nature physique de la lumière. On ne peut s'empêcher de mettre en parallèle cet épisode avec le retour forcé de Newton dans sa maison natale pendant l'épisode de peste en 1665-66 et le début de ses travaux en optique. Convaincu que la théorie corpusculaire de Newton est incorrecte et que seule une théorie ondulatoire peut expliquer l'ensemble des phénomènes lumineux, il décide d'étudier les ombres projetées par des obstacles fins et se livre à une série d'expériences sur la diffraction. Il dispose à Mathieu de moyens rudimentaires, mais apporte au dispositif d'observation habituel des modifications qui s'avéreront décisives et qui lui permettront de faire des mesures d'une grande précision. Au lieu d'observer les franges de diffraction à l'œil nu sur un écran blanc ou sur un verre dépoli, il les observe directement à l'aide d'une loupe, sans l'intermédiaire de l'écran. Son œil recevant plus de lumière, il peut travailler avec une source quasi ponctuelle. Il remplace le trou dans le volet par un petit trou sur une plaque de cuivre sur lequel il dépose une goutte de miel. Celle-ci agit comme une lentille de très courte focale, et permet de concentrer la lumière du soleil sur une zone infime de l'espace. Avec cette source quasi ponctuelle, Fresnel observe des franges bien nettes dans l'ombre d'un fil. Afin de mesurer précisément la position et l'écartement des franges, il fait construire par le serrurier du village un micromètre constitué d'un ensemble de fils de soie très fins montés sur un cadre placé dans le plan focal objet d'une loupe. Il réalise ainsi des mesures d'une précision inégalée, de l'ordre du centième de millimètre. Grâce à son dispositif, il peut se rapprocher et faire des observations jusqu'au plan du fil diffractant. Il constate que les franges extérieures naissent sur les bords mêmes du fil, et décrivent des lignes courbes et non des droites. Avec un fil de 1 mm de diamètre, il observe à l'intérieur de l'ombre des franges équidistantes parallèles au bord, et à l'extérieur de celle-ci, des franges non équidistantes et de contraste décroissant. Occultant un des deux bords du fil par un cache, Fresnel a la surprise d'observer la disparition totale des franges intérieures. Les rayons provenant des deux côtés du fil sont donc nécessaires à la formation de ces franges. Voilà qui porte un coup fatal à la théorie de l'inflexion de Newton. Selon cette théorie, les corpuscules lumineux sont soumis à des forces à courte distance. On devrait donc observer un système de franges du côté non occulté. Ces observations apportent un argument décisif en faveur de la théorie ondulatoire. Le 15 octobre 1815, Fresnel adresse un premier mémoire à l'Académie des sciences intitulé « Diffraction de la lumière ». Il y propose une première explication du phénomène de diffraction. Les franges irisées résulterait d'interférence entre les ondes lumineuses directes et les ondes lumineuses réfléchies par les bords du fil. Comme il n'a pas lu ses travaux, il ne connaît pas l'anglais, il ignore que Thomas Young a déjà proposé la même explication et montre que les franges extérieures étaient courbes. Fresnel trace une série de cercles concentriques issus de la source ponctuelle S et des bords A et B de l'objet diffractant. L'image est sur le site Petites Histoires des Sciences. Les franges de diffraction situées à l'intersection des cercles précédents possèdent la forme caractéristique d'hyperbole. Sa construction rend compte du fait que le nombre de franges d'interférence observées à l'intérieur de l'ombre géométrique augmente lorsque la distance d'observation diminue. Cependant, en réalisant des mesures plus précises, il ne tarde pas à découvrir un désaccord quantitatif et renvoie quelques semaines plus tard un complément à son premier mémoire. Ce second mémoire présente une théorie des rayons efficace qui sera abandonnée à son tour. Au fil des mois et des échanges épistolaires avec Arago, il affine ses expériences et formule de plus en plus précisément sa théorie. En 1816, Arago obtient que Fresnel passe quelques mois à Paris pour continuer son étude de la diffraction. Les deux hommes vérifient ensemble que la forme des franges reste identique en lumière monochromatique rouge. C'est le début d'une longue et étroite collaboration. Arago restera toujours le protecteur et le plus ardent défenseur des théories de Fresnel. l'Académie des sciences, qui souhaite trancher définitivement entre conception corpusculaire et ondulatoire de la lumière, propose la diffraction comme sujet de concours pour l'année 1818. Le 29 juillet 1818, Fresnel dépose un troisième mémoire sur la diffraction, qui correspond à l'aboutissement de plusieurs années de recherche. Ces calculs reposent maintenant sur un principe d'interférence, je cite. Les vibrations d'une onde lumineuse dans chacun de ces points peuvent être regardées comme la résultante des mouvements élémentaires qui s'y enverraient au même instant en agissant isolément toutes les parties de cette onde considérées dans l'une quelconque de ses positions antérieures. Les franges de diffraction ne correspondent plus à la superposition de deux ondes, mais à celle d'un nombre infini d'ondelettes secondaires émises par tous les points de l'ouverture ou qu'auraient émis tous les points de l'obstacle diffractant. Même s'il s'agit d'une formulation assez proche du principe de Huygens, l'avancée est de taille. En effet, là où Huygens considérait uniquement l'enveloppe des ondelettes secondaires, Fresnel obtient l'intensité des franges de diffraction par une somme intégrale des ondelettes elles-mêmes. Ce traitement analytique de la diffraction est une illustration parfaite de la physique mathématique naissante au début du XIXe siècle. Cette fois, l'accord entre les prédictions théoriques et les mesures est excellent, avec des écarts de l'ordre du centième de millimètre seulement. Le jury, chargé d'examiner les mémoires en compétition, comporte 5 membres. Biot, Gay-Lussac, Laplace, Poisson et Arago, dont les 4 premiers sont des partisans de la théorie corpusculaire. En étudiant le mémoire de Fresnel, Poisson déduit des intégrales obtenues par ce dernier que pour des rayons faiblement inclinés, l'éclairement au centre de l'ombre d'un obstacle circulaire doit être identique à celui obtenu en l'absence d'obstacle. Il tient ce résultat pour absurde, c'est-à-dire contraire au bon sens, et pense ainsi, en tant que newtonien, pouvoir disqualifier la théorie ondulatoire de Fresnel. Fresnel, Arago et Poisson réalisent ensemble l'expérience. Ces expériences confirment les calculs de Poisson et apportent un argument fort en faveur de la théorie de Fresnel, qui remporte le prix. Ironie, cette observation avait déjà été décrite par Newton lui-même dans Optics, mais était passée inaperçue. Augustin Fresnel n'est pas seulement célèbre pour sa théorie de la diffraction et de la polarisation de la lumière. Après une affectation au canal de l'Ourcq à Paris, puis au cadastre du pavé de Paris, il est nommé à la commission des phares et balises en 1819. Il conçoit rapidement un système d'éclairage révolutionnaire basé sur un modèle de lentille à échelons et sur une amélioration des lampes à huile. La puissance lumineuse obtenue est 8 fois plus importante que celle des phares anglais les plus puissants utilisant des réflecteurs paraboliques. Le système équipe le phare de Cordouan dès 1823, puis s'étend à toutes les côtes françaises. Les ingénieurs de tous les pays viennent étudier le dispositif d'éclairage afin de l'installer le long de leurs côtes. Fresnel montre là qu'il n'est pas seulement capable d'avancées théoriques, mais aussi de découvertes technologiques d'un grand intérêt pratique. En 1823, Fresnel est élu à l'unanimité membre de l'Académie des sciences. En 1825, il est élu membre de la Royal Society de Londres, qui lui attribue la médaille de Rumford en 1827. De santé fragile, Fresnel meurt de la tuberculose en 1827 à l'âge de 39 ans. Vous retrouverez toutes les références et la programmation musicale sur le site Petites Histoires des Sciences. J'y ai également mis quelques photos prises lors d'expériences réalisées en laboratoire pour illustrer l'article du jour.